Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. En ce jour que le Seigneur nous donne pour que nous puissions grandir dans l'alliance avec lui, car il s'agit bel et bien d'une alliance. Notre histoire, notre vie, c'est l'histoire d'une alliance d'amour, de lumière entre ce Dieu, Trinité qui se révèle à nous, qui se donne à nous, qui vient nous prendre pour nous emmener avec lui, pour que nous vivions de sa vie. Ici-bas, sur terre, pour commencer déjà la vie nouvelle, la vie dans la divine volonté, pour la vivre éternellement, pour commencer notre vie éternelle ici-bas. Ça se fait à travers le don de la grâce, bien sûr, et puis les dons des vertus théologales, foi, espérance, charité, etc., etc. Car notre vie, c'est une succession finalement, de choix que nous posons au cours d'une journée, une journée après l'autre. La grâce de la journée de demain n'est pas là encore. La grâce de la journée d'aujourd'hui est tout à fait disponible. La grâce de la journée d'hier, elle est plus là. Elle était là, elle n'est plus là. Et dans cette journée d'aujourd'hui, la grâce vient toucher notre cœur, nous est donnée instant après instant. C'est tellement important, frères et sœurs, de se remettre devant cette réalité si importante. Nous avons le contact avec Dieu que, premier point, dans l'instant présent, deuxième point, au plus profond de notre cœur. D'un point de vue du temps, donc, c'est maintenant. On ne peut pas dire on va rencontrer Dieu. Ça, c'est l'heure de l'espoir ou de l'espérance. On peut dire on a rencontré Dieu. Là, c'est l'heure du mémorial. C'est un fait. Ça s'est passé comme ça dans notre vie à un tel moment. Le plus important, c'est de le rencontrer aujourd'hui. Et dans cette journée d'aujourd'hui, instant après instant, de garder ce contact actuel. Car encore une fois, Dieu ne se donne à être rencontré que maintenant, que dans l'instant présent. C'est une clé de vie extraordinaire qui vient nous garder de plusieurs risques. C'est de tout le temps repasser, retourner dans notre passé, ou de se projeter dans notre imaginaire concernant notre avenir. Et puis, il y aura les tempéraments plutôt pessimistes qui voient l'avenir, non pas en rose, mais affreux, catastrophiques, et qui vont vivre avec des peurs, et qui vont engendrer des actes à partir de leurs peurs, et qui vont appeler ça, bien sûr, prudence. En fait, c'est la peur. Mauvaise conseillère, toujours. La peur est mauvaise conseillère. Ou bien les optimistes qui ne voient rien venir. C'est bon, ça va aller. Et puis voilà, la même chose on pourrait dire concernant le passé. Frères et sœurs, instant T, c'est maintenant. Voici maintenant le moment favorable. Le moment M, c'est maintenant. Et puis, attention, parce que on ne rencontre pas le Seigneur n'importe comment et n'importe où. Après avoir dit un petit mot sur le temps, disons un petit mot sur l'espace. Le lieu de la rencontre. Ah oui. Parce que si nous pouvons rencontrer Dieu, ce n'est que dans l'instant présent. Mais c'est où ? Faut-il aller quelque part pour le rencontrer ? Maître, où demeures-tu ? Venez et vous verrez. Venez et voyez. Alors c'est une grande découverte ou redécouverte, ou en tout cas un lieu qu'il faut réhabiter sans cesse pour y demeurer. Ça s'appelle ce que la Bible appelle le cœur. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire un petit mot sur le cœur, la conscience, le sanctuaire intérieur. Voilà le lieu où nous pouvons rencontrer Dieu. Est-ce que je le rencontre dans mes mains, dans ma dimension physique, dans ma dimension psychique ou dans ma dimension spirituelle? Très important de savoir. Eh bien, je vous le dis tout de suite la réponse. On ne rencontre pas Dieu dans son psychisme. Dieu n'est pas là, dans ce lieu. Voilà ce qui peut aider, hein, carrément même. Parce qu'il faut aller plus profond, notre psychisme n'est pas notre être plus profond, spirituel. Dieu est esprit et c'est en esprit et en vérité que nous l'adorons. Ah, l'adorons. Nous lui rendons un culte en esprit et en vérité. Voici l'adoration véritable, dit saint Paul. Offrir votre corps, votre âme, votre personne tout entière en sacrifice vivant et saint, en sacrifice d'adoration. C'est le cœur qui doit commander toute chose. Alors, il faut bien savoir ce que c'est que ce cœur. Où est le cœur? Déjà, c'était des questions que les philosophes se posaient. Où est-ce qu'est l'âme? Est-ce que l'âme est plutôt dans le bras ou dans le pied, hein? Géolocalisons l'âme, ce principe de vie. Or, bien sûr, nous avons un principe de vie végétative, manger, boire, se nourrir, respirer. Nous avons des principes de vie sensibles avec nos cinq sens, sensibles, les sens externes, les sens internes. Nous avons toute notre vie, nos principes de vie sensibles, voilà, c'est tout notre psychisme, notre psychologie. Et nous avons les principes de vie spirituelle. Il faut très clairement distinguer les niveaux. Sinon, on mélange tout. Et on pense vivre spirituellement alors qu'on est en train de vivre dans notre psyché. Ne nous trompons pas. Alors, on va confondre nos passions avec notre cœur. Non, c'est pas la même chose, nos passions. Nos élans passionnels, ce n'est pas le cœur, c'est différent. Il y a donc en nous différents degrés, différentes profondeurs. En même temps, on peut rencontrer la Sainte Trinité. En même temps, on peut manger, boire, respirer. On peut aimer quelqu'un, une personne humaine. On peut travailler, on peut agir. On peut penser. Voilà la richesse et la complexité de l'être humain. Bien sûr, avant le péché, c'était plus simple. Avant le péché originel. Créés dans l'état de sainteté et de justice originelle, nos premiers parents n'avaient pas de problème, n'avaient pas de difficulté, de désordre, de désharmonie. Entre ces différentes dimensions que je vous énumère. Tout était ordonné, tout était harmonieux. Les passions étaient là, elles sont moralement neutres, mais complètement harmonisées, gouvernées par le cœur. Le cœur biblique est, je vais vous le voir, ce lieu où Dieu réside, ce lieu où Dieu parle, ce lieu où Dieu donne sa lumière, ce lieu où l'homme peut capter la lumière divine pour y adhérer, pour consentir, pour choisir, pour se décider, pour s'orienter. Librement. En fonction des lumières qu'il a. Et puis mon voisin n'aura pas les mêmes lumières. Et puis moi j'aurai d'autres lumières. C'est notre dignité humaine que de pouvoir poser des actes moralement bons, comme on dit, de pouvoir réaliser, comprendre ce que c'est que notre finalité profonde. Non seulement la comprendre, mais vivre selon notre finalité profonde et poser des choix conformes à cette finalité que nous avons repérée. Alors bien sûr, on parlera de conscience, mais aussi de conscience éclairée, vaut mieux. Et puis du choix libre de chacun. Car c'est comme ça que le Seigneur nous a créés, c'est comme ça qu'il vient tisser sa relation avec nous, Nous ne sommes pas des marionnettes. Et nous ne sommes pas dressés comme des animaux. Non. Nous sommes éduqués. Ça n'a rien à voir. Nous sommes conduits. Nous sommes éclairés, nous sommes portés, nous sommes aidés, consolés, fortifiés. Tout autre chose que du dressage, qui par ailleurs est très intéressant. Alors comment Dieu va faire au soir de la chute, quand Adam et Ève, et du coup la nature humaine, car il y a le péché personnel de Monsieur Adam et de Madame Ève, mais il y a le péché originel, c'est-à-dire qui est un péché de nature, c'est-à-dire que c'est la nature humaine qui est contaminée. Adam et Ève vont engendrer dans la mort, c'est-à-dire dans l'absence de vie de la grâce sanctifiante. Il va falloir donc appeler la grâce sanctifiante à nouveau pour qu'elle revienne. Mais il y a les chérubins qui sont là et qui bloquent le chemin. Il y a donc un état de la nature humaine qui est considéré comme déchu par rapport au premier état de sainteté et de justice originelle. Comment Dieu va faire? Eh bien, il va continuer, bien sûr, à frapper à la porte du cœur de l'homme, bien sûr. Mais ça va être plus compliqué pour l'homme d'entendre la parole de Dieu, d'intégrer cette parole, de la mûrir, d'y obéir joyeusement, librement, pour être heureux ici-bas et pour préparer son éternité. Ça va être laborieux dans tous les domaines. Déjà intérieurement, chacun, l'homme et la femme, désordre intérieur. Entre l'homme et la femme, je vous raconte pas, hein. Entre les êtres humains, ça devient très compliqué. Entre Dieu et l'être humain d'abord, et puis les conséquences vont jusqu'à le règne que nous aurions dû vivre et exercer sur l'univers, qui aurait dû se passer d'une manière paisible et harmonieuse. Et là, ça devient laborieux, pénible. Il y a une peine due au péché, une conséquence due au péché. C'est laborieux, c'est difficile, il y a la fatigue. Il y a donc tout ça que, bien sûr, le Seigneur Jésus viendra reprendre, viendra sauver, restaurer et nous emmener très très loin dans la vie avec Dieu. Mais déjà, et c'est le thème de la catéchèse d'aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de la loi naturelle. Ce qui m'a valu un 6 sur 10 au cours de mes examens en théologie morale, car j'étais dans une école qui n'était pas très loi naturelle, on va dire. Et pourtant, c'est si important. Et pourtant, le catéchisme, c'est l'enseignement de l'Église depuis des centaines d'années. La loi naturelle. C'est quelque chose de très important. Je vais vous parler de ça. Parce que ça nous montre quelque chose de très beau. Dieu parle au cœur de l'homme, de tout homme. Pour l'aider à s'orienter librement, à choisir librement pour son bonheur. Dans tous les domaines de sa vie. Selon sa volonté qui s'exprime progressivement. Et de petit pas en petit pas, l'aider à l'accueillir au jour béni de l'incarnation, au jour béni de la vie publique de Jésus, au jour béni de la passion, de la croix, au jour béni de la résurrection et au jour béni de la prédication apostolique et de celle de l'Église. Mais il y a déjà, et cela ne s'en va pas avec la loi nouvelle, la loi naturelle reste accroché, déposé dans le cœur de tout homme parce que c'est une loi qui justement touche la nature humaine, qui est comme ce garde-fou, cette miséricorde déjà, on peut dire, de la part du Seigneur qui ne veut pas que sa créature meure, se damne, mais que sa créature chérie, les personnes humaines, chaque personne humaine puisse accueillir la lumière de la parole de Dieu. Ta parole est une lumière sur mes pas. Alors, la loi naturelle et cette loi éternelle, une participation à la loi éternelle chez l'être humain, dans la créature raisonnable. Elle est cette lumière, c'est une lumière, mise par Dieu dans notre intelligence, qui nous fait discerner le bien à faire et le mal à éviter. Tel est son principe immuable et universel, comme nous dit le catéchisme, dans les paragraphes 1954 jusqu'à 1960. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un précepte premier de la loi naturelle, c'est-à-dire fais ce qui est bien, évite ce qui est mal. Chacun de nous, nous avons ça en nous. Encore une fois, que nous soyons chrétiens, pas chrétiens, chacun de nous, on a ça. Fais ce qui est bien, évite le mal. Et cette loi naturelle, qui est une participation de la loi éternelle chez l'être humain, elle est saisie de façon spontanée. Il n'y a pas besoin de faire des études. C'est dans la vie, c'est dans notre vie de quotidienne. Parce que nous n'arrêtons pas de poser les actes. Alors, il y a les actes, j'allais dire, d'une banalité extrême, et puis auxquels on ne pense même pas. Voyez. Puis, il y a des actes un peu plus importants qui font partie de la moralité spécifique à l'être humain. Des actes moralement bons, intrinsèquement mauvais. Et donc, forcément, il y a la question du bien, du mal, du choix, etc. Bon. Et tout ça dans un ensemble de domaines. Ce qu'on appelle les inclinations naturelles. Nous sommes des êtres inclinés, c'est-à-dire orientés. Orientés ultimement vers Dieu, bien sûr, notre fin ultime. Mais le fait que le Seigneur, notre Dieu, soit notre fin ultime, cela ne vient pas casser, éliminer tous les biens de notre quotidien. Alors nous retrouvons des inclinations naturelles que nous avons chacun dans un peu trois grands ensembles. Et dans tous ces domaines, vous allez voir qu'il y a toujours cette petite voix, on pourrait dire, du Seigneur, déposée dans notre nature, qui nous dit « Fais ce qui est bien, évite le mal ». Il y a donc premier grand domaine, grand ensemble de nos dynamismes naturels, c'est l'inclination à conserver, à développer son existence. Là, dans ces réflexes de survie, on pourrait dire, se profilent des inclinations vers tout ce qui contribue d'une manière propre à l'homme, au maintien et à la qualité de la vie biologique. Intégrité du corps, usage des biens extérieurs, qui garantissent la subsistance et l'intégrité de la vie, telles que la nourriture, le vêtement, le logement, le travail, la qualité de l'environnement biologique, etc. Nous sommes naturellement donc inclinés dans tous ces domaines à faire ce qui est bien et à éviter ce qui est mal. Nous avons comme une boussole intérieure, si on pourrait dire. Deuxième grand ensemble de dynamisme naturel, c'est ce que nous avons en commun avec tous les vivants, c'est-à-dire inclination à se reproduire pour perpétuer l'espèce. Bah oui, aux grandes dames des grandes idéologies qui pensent qu'on est trop nombreux sur Terre, il faut limiter un peu la population mondiale, ça va contre notre inclination naturelle à perpétuer l'espèce. C'est l'inclination de l'homme vers la femme, de la femme vers l'homme, ainsi que celle à prendre soin des enfants et à les éduquer. Il y a donc dans le rapport à la sexualité, dans le rapport aux enfants, à l'éducation des enfants, etc., donc l'exercice de la paternité, de la maternité, eh bien, dans tous ces domaines-là, tout le temps, si vous êtes parent, vous savez bien que tout le temps, il y a cette loi naturelle en vous qui vous dit qu'est-ce qui est bien à faire, qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est... Tout le temps, vous faites des petits choix. Quelle école choisir? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à telle matière? Il y a tel enfant qui revient à l'école, voilà, ça s'est passé comme ça. Il faut reprendre des choses, etc., etc. Tout le temps. Vous faites ça sans même y penser. Parce que c'est naturel. C'est une inclination naturelle, vous voyez. Bien sûr, qui dit nature dit choix aussi, attention. Choix personnel. Dans le troisième grand ensemble de na dynamisme naturel, il y a quelque chose qui est propre à l'homme. C'est l'inclination à vivre en société. Eh oui. Nous ne sommes pas naturellement inclinés à être des ermites, hein? Bien que on en ait envie de temps en temps. Nous avons une inclination à vivre en société. Ici se range bien sûr l'amitié et puis la coopération pour la recherche de la vérité. Tous ceux et celles qui s'intéressent à la cité, par exemple, à la politique, c'est non seulement réfléchir, se réunir pour réfléchir, mais c'est très concret, c'est comment améliorer la vie des citoyens. Ça, c'est propre à l'homme. L'homme est un animal social, on peut dire ça comme ça. Et puis dans cette vie sociale, on cherche toujours à améliorer, à réfléchir, à poser des choix dans ce qui nous semble bien, ouais, et à éviter le mal. Bon. Ça, c'est propre à l'homme. Et puis, deuxième chose qui est propre à l'homme, vraiment, là, du coup, là, c'est la tendance à vivre en communion avec Dieu, bien sûr. C'est la croyance avec la vertu de religion. Nous y reviendrons. La vertu de religion qui vient de la foi et qui est donc ce rapport à Dieu. Pour faire court, religion, religare, c'est notre lien à Dieu, on va dire, on va rester général, à la divinité. Voilà, quelles que soient, vous voyez, les religions, etc. Je vous disais que l'homme est naturellement religieux, oui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se passer de la transcendance. La transcendance n'est pas dans tout ce que je vous ai cité avant. La transcendance n'est que dans notre lien à Dieu. N'en déplaise à certains qui veulent trouver de la transcendance ailleurs, en restant dans un aspect horizontal de notre vie. Même la politique, si ça nous dépasse, ça nous demande je veux dire, un dépassement personnel. La coopération, l'amitié, la recherche de la vérité, tout ça, bien sûr, ça nous dynamise, ça nous booste, ça nous fait nous dépasser nous-mêmes. Mais nous restons encore sur le plan de la cité humaine. Tant qu'on reste sur le plan humain, il n'y a pas, au sens strict, de transcendance. La transcendance est réservée à justement ce qui dépasse l'aspect humain et qui s'oriente vers l'absolu, la divinité, Dieu, etc. Donc, si vous voulez, dans nos sociétés un petit peu occidentalo, athées, où règne quand même un climat d'apostasie générale, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Paul II déjà qui le disait, où on a relégué Dieu à vraiment à une sphère on ne peut plus priver. Tu penses ce que tu veux, mais... Hein? C'est quelque part abîmer la nature humaine. Pas simplement embêter les personnes, mais c'est la nature humaine qui est encore une fois ontologiquement religieuse. Après, ben voilà, il y a tous les courants religieux, il y a les croyances. On reviendra là-dessus sur la distinction entre la croyance et la foi. Donc la croyance est liée à la vertu de religion. C'est l'homme qui se tourne vers Dieu et qui cherche. Et là, il y a toutes sortes de propositions. La foi, c'est différent. On le verra. C'est Dieu qui se révèle et c'est l'homme qui répond à Dieu qui se révèle. Tout à fait autre chose. Mais la foi venant d'en haut ne va pas reléguer la vertu de religion à quelque chose d'inexistant. Non, on verra que la vertu de religion ne disparaît pas avec la foi. Nous restons des êtres religieux avec des expressions, des gestes, des rites, des toutes sortes de choses, mais qui sont comme revisitées à la lumière de la foi, de la révélation. Voilà donc un petit peu ces grands ensembles de dynamisme naturel que nous avons, les êtres humains, et dans lesquels il y a la petite voix du Seigneur qui nous dit « Fais ce qui est bien, évite le mal ». Alors, je vous disais, au début de cette catéchèse, où est-ce que la voix de Dieu se fait entendre? Car si nous avons dans notre nature toutes ces inclinations, est-ce que nous sommes capables d'entendre Dieu qui nous aide, qui nous éclaire, qui nous illumine? Alors oui, c'est le cœur, ou la conscience, on va dire ça comme ça aujourd'hui. Déjà, nous voyons dans la Bible, au soir de la chute, la Bible va nous raconter l'histoire de personnages qui sont dociles à Dieu, qui ne connaissent pas encore Jésus, bien sûr, on est tout de suite après la chute. Il y a des gens, ce qu'on appelle des justes, des gens ajustés, qui répondent par la foi et qui posent même des gestes. Noé va construire une arche. Faut le faire quand même. On mangeait, on buvait, dit Jésus dans l'évangile. Au temps de Noé, on mangeait, on buvait, on prend les femmes. Yalla, yalla. Sauf que il y avait un, il s'appelait Noé. Il avait entendu qu'il fallait construire une arche. Mais voilà, il construit son arche. Ça a bien servi. Il a eu raison d'obéir. Voilà donc qu'avant même Jésus, et qu'avant même Moïse, qu'avant même la loi mosaïque, qu'avant même Abraham, Dieu va murmurer son nom. Et il y aura, comme dit saint Augustin dans la Cité de Dieu, deux cités ici-bas. Il y a la cité, ici-bas, constituée de personnes qui s'ouvrent à la grâce. Leur cœur, mystérieusement, capte la lumière de Dieu et voilà que des personnes accueillant cette grâce qui frappe à la porte de leur cœur, en n'ayant pas la plénitude de la révélation, bien sûr, qui est complètement progressive, mais voilà où le cœur s'ouvre à la grâce, voilà que c'est déjà la cité de Dieu qui existe, qui se forme, qui progresse. C'est l'état de grâce accepté. Il y a déjà quelque chose sur terre qui est conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que rappelez-vous, le péché, et tout péché sera comme ça, c'est désobéir. C'est une désobéissance, le péché, à la volonté de Dieu. Préférer sa volonté propre à la volonté de Dieu. Heureusement, il y a quelques personnes de ci, de là, qui obéissent, mues par la grâce. Mais il y a, il faut le dire, dans la lumière de la Bible, il faut le dire que la majorité des personnes désobéissent à la grâce, se ferment à la grâce. C'est l'état de grâce refusé. Et voilà que déjà, sur cette terre ici-bas, c'est déjà la cité du mal qui existe, qui se forme, qui progresse. Et saint Augustin nous dit « Deux amours ont donc bâti deux cités. L'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu, celle de la terre. Je me préfère à Dieu, je préfère ma volonté à la volonté de Dieu. Et puis, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même, celle du ciel. » L'une se glorifie en soi-même et l'autre dans le Seigneur. L'une brigue la gloire des hommes, pardon, et l'autre ne veut pour toute gloire que le témoignage de sa conscience. L'une marche la tête levée, toute bouffie d'orgueil, et l'autre dit à Dieu, « Tu es ma gloire, Seigneur, et c'est toi qui me fais marcher la tête levée. » Il y a donc l'orgueil et l'humilité. C'est la clé. Où est-ce que ça se passe tout ça? Ça se passe dans les cœurs. Dans ce que Gaudium et Spes, au paragraphe numéro 16, appelle la conscience, au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée à lui-même. C'est ça, c'est très important. On ne se donne pas à soi-même sa propre loi, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer, ah, d'aimer, oui, bien sûr, et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur, fais ceci, évite cela. Car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. Sa dignité est de lui obéir, et c'est elle qui le jugera. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. C'est d'une manière admirable que se découvre à la conscience cette loi qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain. C'est beau, n'est-ce pas? Un autre document de l'Église qui s'appelle Dignitatis Humanae numéro 3 nous dira: c'est par sa conscience que l'homme perçoit et reconnaît les injonctions de la loi divine. C'est elle qu'il est tenu de suivre fidèlement en toutes ses activités. Dans toutes ses activités. Pour parvenir à sa fin qui est Dieu. Il y a donc la loi divine, éternelle, celle-là, la volonté de Dieu, qui s'exprime à travers une petite voix intérieure qui est la loi naturelle, participation à la loi de Dieu, qui nous dit dans tous les domaines que je vous ai cités, fais ceci, évite cela. Il y a donc un lieu où le cœur de tout homme peut capter la voix de Dieu, ça s'appelle le cœur, la conscience, et il peut désobéir ou il peut obéir. Voilà où se situe la liberté. La liberté se situe à l'intérieur de, comment dire, d'une attraction vers le bien et aussi d'un repérage de ce qui est vrai, de ce qui est bon. Donc, la liberté, on peut dire, à la suite de saint Thomas d'Aquin, est une propriété de l'intelligence et de la volonté. On n'a pas une liberté en soi, si vous voulez, qui se balade. On n'est pas, pas des êtres 100% libres, non. N'existe pas. Je ne suis pas la liberté. La liberté s'inscrit au cœur d'une attraction vers le bien. Mais pour repérer ce qui est bien, il faut que l'intelligence l'ait repéré et le montre à la volonté, pour dire un peu comme ça. La volonté, c'est quoi? C'est notre inclination spirituelle vers le bien spirituel. C'est une attraction. Mais pour un discernement qui est de l'ordre de l'intelligence, il faut que l'intelligence dise ça, c'est bien. Et du coup, quand on repère au moins un minimum que ça, c'est bien, qu'on est attiré, qu'on repère, et là s'exprime un choix qui est, c'est la volonté qui choisit, librement, plus ou moins librement d'ailleurs. C'est toute une. Un jeu. On est plus ou moins libre, selon justement notre habitus, notre habitude à choisir le bien. Plus on choisit le bien, plus on devient libre. Moins on choisit le bien, plus on devient esclave. Donc moins on est libre. La conscience, le terme latin cum scire, signifie savoir avec. C'est un savoir uni à quelque chose de distinct, voire même à quelqu'un d'autre. La conscience est donc un savoir, une connaissance singulière portant sur une réalité particulière. Elle n'est pas une faculté, la conscience, non. Mais c'est le jugement porté sur la valeur d'un acte concret, en référence à la vérité morale, universelle, sur le bien, que ma volonté libre est appelée à accomplir. C'est ma conscience personnelle, à moi, qui est interpellée. Mon voisin, peut-être, ça va lui faire ni chaud ni froid. Moi, je vais être interpellé par quelque chose. C'est moi qui suis interpellé. C'est ma conscience. Ce qui m'oblige, c'est une vérité objective, indépendante de moi, qui précède le jugement particulier. Et elle m'oblige de manière absolue, indiscutable et universelle, car elle est commune à tous les hommes. C'est-à-dire que je vous ai parlé de la paresse hier. Vous savez, parfois on repère, on sait ce qui est bien à faire, mais on ne le fait pas. Le jeune homme riche, il a repéré que c'était Jésus qu'il fallait suivre. Mais il est parti parce qu'il avait de grands biens. Il y a parfois comme ça dans l'histoire des gens qui ont été appelés au sacerdoce et qui se sont dit « Ben non, c'est possible. » Et figurez-vous que ça peut arriver, bien sûr. Alors c'est ce qu'affirme saint Paul en Romains 2, il dit « Quand des païens privés de la loi accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, ces hommes, sans posséder de loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur à preuve le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns sur les autres. Ça, c'est pas bien, ça t'a pas bien fait, gnagnagni, gnagnagna. Comment ça se fait qu'on dise, on parle comme ça, qu'on juge comme ça? C'est qu'en nous-mêmes, on a tout le temps des boussoles, des GPS, des... Hein? Nous sommes une réalité morale. Bah oui. À la différence de l'animal. Lui, si vous voulez qu'il vous morde ou qu'il vous lèche, ça n'a aucun impact sur sa moralité, non. Nous, oui, si on se mord, bah ça va pas être moralement bien, si vous voulez. Et si on se lèche non plus, d'ailleurs. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon. La conscience atteste la loi de Dieu en l'appliquant aux actes. C'est elle qui juge la bonté ou la malice d'un acte concret à raison de sa relation avec la loi inscrite dans le cœur. Elle accuse donc l'homme lorsque ses actes ne sont pas conformes à la loi inscrite dans son cœur. Elle nous accuse, c'est-à-dire, on dit non, ça c'est pas bien. C'est pour ça qu'on va se confesser. On reconnaît nos torts, nos fautes, nos erreurs. On a cette conscience, c'est-à-dire un savoir avec. Notre conscience est ce qui accompagne la lumière qu'on reçoit, qu'on choisit ou pas. Alors, il faut distinguer, bien sûr, le jugement de conscience vrai et le jugement erroné, parce qu'on peut se tromper. Si ce dernier existe, c'est-à-dire le jugement erroné, c'est qu'il faut former sa conscience à la lumière de la vérité. C'est un devoir de former sa conscience. D'ailleurs, Dieu, en créant l'homme, ne lui a pas donné l'omniscience. Après le péché d'Adam, nous devons être attentifs à ce que Dieu dépose dans nos cœurs, avec toutes les impuretés dont parle Jésus dans l'Évangile. Et c'est pour ça qu'il y a une petite nuance en Saint-Luc entre le cœur et le trésor du cœur. Si dans le cœur il y a toutes sortes d'impuretés, dans le trésor du cœur, là, dans ce sanctuaire intérieur, nous pouvons non pas entendre sensiblement la voix, attention, hein. Encore une fois, nous ne sommes pas dans le domaine sensible, nous sommes dans le domaine de l'esprit. Nous sommes une réalité spirituelle. Nous, les êtres humains. Alors, bien sûr, avec un corps, un psychisme et tout ça, bien sûr. Mais quand Dieu parle, c'est maintenant. Et c'est au plus profond de notre cœur. Est-ce que nous sommes capables de recevoir les lumières divines et obéir avec joie, allégresse, pour expérimenter ici-bas la joie de l'obéissance, la joie de la volonté divine, la joie de la parole de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Heureux ceux qui écoutent et qui gardent, en la mettant en pratique, la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.